VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 3 novembre 2023. En direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken de retour en Israël pour parler de la situation des civils palestiniens. La situation en Cisjordanie occupée est alarmante et urgente selon l'ONU. La MONUSCO et l'armée congolaise lancent une opération pour protéger Goma des rebelles du M23. Les États-Unis s'efforcent de soutenir le retour à la démocratie dans toute la région du Sahel. Dans nos dossiers du jour, nous parlerons du retour au Tchad de l'opposant Succès Masra. Ne manquez pas notre passeport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Tchad, l'un des principaux opposants est rentré vendredi, trois jours après avoir passé un accord avec le pouvoir militaire et après un an d'exil consécutif à la répression sanglante d'une manifestation à laquelle il avait appelé à annoncer le gouvernement. Dans l'accord de principe signé à Kinshasa, le gouvernement s'était engagé à faciliter le retour de M. Masra dans la sécurité juridique et physique, garantissant le libre exercice de ses activités politiques. Nous confirmons le retour du président du parti Les Transformateurs, Succès Masra, a déclaré par téléphone Aziz Marmat Saleh, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, sans aucun autre commentaire. Nous reviendrons sur cette nouvelle dans nos dossiers du jour. Alors que des combats violents au Roto Darfour poussent à nouveau les Soudanais à fuir, un responsable de l'ONU exhorte la communauté internationale à intensifier ses efforts pour soulager les souffrances de 6 millions de personnes déjà déplacées au cours des 6 derniers mois. Le point avec Eric Manilakiza.
De plus en plus d'habitants du Darfour sont poussés vers le sud, vers le Tchad il y a quelques semaines et maintenant vers le Soudan du Sud. Entre 2000 et 3000 personnes par jour y arrivent, souligne la responsable des relations extérieures du HCR. J'ai été témoin de scènes dramatiques à la frontière avec le Soudan. 10 000 personnes cherchant refuge sont arrivées en 3 jours, précise cette responsable. Et Washington s'est alarmée jeudi d'informations sur une attaque imminente et de grande ampleur des paramilitaires soudanais à El Fasher, chef-lieu du Darfour Nord. Le plan de réponse humanitaire de l'ONU, réévalué en août, demandait environ 1 milliard de dollars en anticipant 1,8 million de réfugiés d'ici fin 2023. Des pourparlers entre les belligérants ont repris fin octobre en Arabie Saoudite, mais les précédentes tentatives de médiation n'ont abouti qu'à de brèves trêves systématiquement violées. La priorité est une cessation des hostilités, insiste l'OACR, qui espère un miracle que les négociations de Jeddah arrivent à arrêter les combats. En attendant, il faut alléger la souffrance des réfugiés, plaide le HCR.
Débuté hier à Johannesburg en Afrique du Sud, le sommet de l'AGOA, la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, prend fin demain samedi. Il réunit membres du gouvernement américain et ministres du commerce et de l'industrie d'une quarantaine de pays africains éligibles à l'AGOA. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Ce sommet annuel planche sur la prolongation de l'accord sur l'AGOA qui expire en 2025. Selon Joanne Smonsich, porte-parole francophone du département d'État, l'administration et les politiques américains sont pour une prolongation. Il ajoute que depuis la création de ce programme en 2000, il a contribué à créer plusieurs centaines de milliers d'emplois et à susciter la mise en place de réformes économiques et politiques dans les pays concernés. M. Smonsich évalue les exportations de marchandises des pays bénéficiaires de l'AGOA vers les États-Unis à 10,3 milliards de dollars en 2022. L'Afrique du Sud vient en tête des pays qui exportent à travers ce programme avec 21% de ses exportations vers les États-Unis, évaluées à 3 milliards de dollars en 2022. Ces exportations vont des pièces automobiles aux matières premières, en passant par les pierres précieuses. Approuvée par le Congrès américain en 2000, l'AGOA permet à des pays d'Afrique subsaharienne de ne pas payer de droits de douane pour exporter leur production sur le sol américain. Ce traitement commercial préférentiel est soumis à des conditions de pluralisme politique, de respect des droits humains et d'état de droit. La Maison-Blanche a annoncé cette semaine le retrait de la République centrafricaine, du Gabon, du Niger et de l'Ouganda pour violation de ces conditions.
La France augmentera son soutien à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour restaurer la démocratie dans cette région frappée par de récents coups d'État, a déclaré vendredi la ministre française des Affaires étrangères à Abuja. Catherine Colonna était en visite au Nigeria, qui assure actuellement la présidence de la CEDEAO pour discuter de la coopération bilatérale et de la sécurité régionale à l'heure où l'insécurité au Sahel s'aggrave. La France a mis fin à ses opérations militaires anti-djihadistes au Mali et au Burkina Faso et a récemment commencé à retirer ses troupes du Niger où des juntes militaires ont pris le pouvoir suite à des coups d'État. Un commandant de la milice ADF arrêté mardi pour l'assassinat de deux touristes étrangers en Ouganda est également accusé d'un massacre perpétré en juin dans une école, a indiqué vendredi le général Dick Olum, en charge d'une opération anti-ADF en RDC. Il y a une corrélation entre les trois attaques et le commandement de Njovu, a affirmé le général Dick Olum. C'est le même Abdul Rachid Kioto qui a commandé ces attaques et l'attaque contre les deux touristes et leur guide. Sa capture devrait rassurer les Ougandais et les touristes sur le fait qu'avec les opérations en cours, l'Ouganda est en sécurité et les ADF seront vaincus, a conclu le général Olum. La MONUSCO, mission de l'ONU en République démocratique du Congo, a annoncé ce vendredi le lancement avec l'armée congolaise d'une opération appelée Springbok. Cette opération est destinée à empêcher les rebelles du M23 de prendre Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Les précisions avec Mouamadou Oumfa.
Le général Otavio Rodriguez de Miranda Filho, commandant de la force de la MONUSCO, a déclaré à la presse à Goma que l'objectif principal de l'opération est d'arrêter toute velléité du M23 d'envahir Sake, à une trentaine de kilomètres de Goma. La MONUSCO est profondément préoccupée par la grave escalade prise par le conflit au cours du mois dernier, a déclaré le général Miranda Filho. Ce conflit, a-t-il dit, représente une menace majeure pour l'accès de l'aide humanitaire et pour les personnes déplacées, dont beaucoup s'abritent dans des sites situés à la périphérie de Goma. Le M23, a-t-il poursuivi, progresse actuellement vers le sud en direction de Sake, cité qui se veut un rempart essentiel dans la défense de Goma. La MONUSCO s'est engagée à travailler avec les FRDC pour protéger les civils des groupes rebelles armés. C'est pourquoi aujourd'hui, le personnel militaire de la MONUSCO et les FRDC ont lancé l'opération Springbok, a encore déclaré le commandant de la force onusienne. Présente en RDC depuis 1999, la force de l'ONU est très critiquée par les Congolais qui lui reprochent de ne pas avoir mis fin aux violences des groupes armés, notamment du M23. Le gouvernement de Kinshasa a demandé son départ accéléré à partir de décembre prochain.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, en visite en Israël, a plaidé ce vendredi pour des pauses humanitaires et appelé à faire plus pour protéger la population de Gaza, où l'armée israélienne en guerre contre le Hamas poursuit des opérations terrestres et des frappes meurtrières. Israël a rejeté la possibilité d'une trêve sans la libération des otages. Les précisions avec Dini Diko.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a dit vendredi avoir discuté de la mise en place de pauses humanitaires dans le conflit entre Israël et le Hamas avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, mais celui-ci a exclu cette possibilité, refusant une trêve temporaire sans la libération des otages enlevés le 7 octobre en Israël par le Hamas. En ce qui concerne les pauses humanitaires, nous considérons qu'il s'agit d'un moyen de faciliter l'acheminement de l'aide, de s'assurer que celle-ci atteigne les personnes qui en ont besoin, a déclaré M. Blinken. Nous considérons que c'est aussi un moyen de créer un meilleur environnement pour la libération des otages, a affirmé le diplomate américain. Ajoutant aux inquiétudes sur le sort des civils, Israël a commencé à renvoyer dans la bande de Gaza, malgré les bombardements, des milliers de travailleurs palestiniens bloqués sur son sol depuis près d'un mois. Les craintes d'un embrasement régional sont grandes car le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, a fait savoir que toutes les options sont ouvertes pour un élargissement de la guerre sur le front libanais avec Israël.
L'Ukraine a été visée dans la nuit de jeudi à vendredi par une nouvelle attaque massive de drones lancés par la Russie, dont seulement la moitié ont été abattus, a affirmé le président Volodymyr Zelensky. L'attaque a visé 10 régions d'Ukraine, dont les régions du sud, de l'ouest et celle de Kiev, la capitale, selon le président qui a précisé qu'elle n'a pas fait de victimes. Il s'agit d'une attaque aérienne repoussée avec moins de succès que d'autres qui ont visé l'Ukraine ces derniers mois, pour lesquelles la défense ukrainienne affirmait avoir abattu la quasi-totalité des engins en vol. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nathalie Barge.
L'Afrique du Sud a ouvert le sommet de l'AGOA jeudi sur les échanges commerciaux du continent avec les États-Unis. Des membres du gouvernement américain et des ministres du commerce et de l'industrie des pays africains éligibles à la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique sont réunis à Johannesburg jusqu'à samedi. Le dispositif AGOA permet à ces pays membres de ne pas payer de droits de douane pour exporter leur production sur le sol américain. Les échanges au titre de l'AGOA représentent 21% des exportations de l'Afrique du Sud vers les États-Unis et sont passés de 2 à 3 milliards de dollars entre 2021 et 2022. Les exportations vont des pièces automobiles aux matières premières en passant par les pierres précieuses. L'AGOA a joué un rôle essentiel dans le renforcement des liens économiques et la promotion de la croissance et du développement sur le continent africain, a souligné la présidence sud-africaine dans un communiqué. Selon Bloomberg, l'institution de financement du développement du gouvernement britannique British International Investment a ouvert un bureau pour l'Afrique de l'Ouest à Lagos au Nigeria. Elle compte investir 1 milliard de dollars par an sur le continent, dont 200 millions de dollars au Nigeria d'ici la fin de l'année. BII a déjà des bureaux en Afrique du Sud, au Kenya et en Égypte.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ousine, bonsoir à tous.
Athlétisme, Michael Njenja Kunyuga, suspendu pour dopage.
Oui, le marathonnier kenyan écope de 8 ans de suspension pour dopage, selon l'annonce faite par l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Michael Njenja Kunyuga a été testé positif à un médicament améliorant les performances. Selon l'agence antidopage, une enquête a aussi révélé que l'athlète de 36 ans a présenté de fausses informations médicales pour justifier un contrôle antidopage positif après sa deuxième place au marathon de Riga en Lettonie en mai 2022. Sa suspension prend effet à compter de la date de sa suspension provisoire, le 1er août 2022. Les résultats en course de Kunyuga depuis le 15 mai 2022 ont été effacés et le coureur doit renoncer à toutes les récompenses qu'il a reçu pour les courses postérieures à cette date. Près de 70 athlètes kenyans, principalement des coureurs de fond, ont été suspendus au cours des 5 dernières années.
Ici aux États-Unis, Lionel Messi battu pour le prix du meilleur nouveau venu en MLS.
Récompensé lundi par un 8e ballon d'or record, l'Argentin n'a en revanche pas reçu le prix du meilleur nouveau venu en MLS, décerné hier au grec d'Atlanta United, Georgios Giakoumakis. L'attaquant de 28 ans, passé par le Celtic Glasgow entre 2021 et 2023, après avoir vécu l'essentiel de sa carrière en Grèce, a inscrit 17 buts cette saison. Messi, ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, qui s'est engagé cet été avec l'Inter Miami, est arrivé à la deuxième place malgré sa victoire en League Cup, une compétition mettant aux prises les équipes américaines et mexicaines. Son équipe n'a pas réussi en revanche à se qualifier pour les playoffs du championnat des États-Unis.
Basketball, la fusée Victor Wembanyama est lancée.
8 jours seulement après ses débuts en NBA, le très attendu Victor Wembanyama a réussi une performance exceptionnelle en marquant 38 points pour gagner un second match avec les Spurs contre Phoenix 132-121. 19 ans, 5 matchs NBA au compteur et une première nuit de folie pour le géant français de 2m24. Rookie le plus attendu depuis LeBron James en 2003, Wemby a fait mieux que les Kings qui n'avaient pas marqué plus de 25 points lors de ses 5 premiers matchs. Avant ses 38 points du soir, le français avait marqué entre 11 et 21 points. De son côté, Philadelphie menée par le MVP 2023, le Camerounais Joel Embiid, 28 points, 13 rebonds, a dominé Toronto de l'autre Camerounais, Pascal Siakam, 114-99. Orlando a gagné de justesse à Utah, 115-113.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Rosine Mounezero de retour avec vous. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'opposant Dr Succé Masra en exil depuis un an à la suite aux événements sanglants du 20 octobre 2022 est rentré ce vendredi midi à N'Djamena. Son retour a été facilité par l'accord de Kinshasa sous les auspices du président Félix-Antoine Tshisekedi, désigné facilitateur de la crise tchadienne par la CEEAC. André Kodman-Digar pour les détails.
Le contenu de cet accord de principe ayant permis au chef du parti des transformateurs de rentrer ce vendredi à N'Djamena a été rendu public par le ministre tchadien de la Réconciliation, par ailleurs chef de mission Abdraman Koulamala.
Le docteur Succé Masra s'engage à continuer le dialogue avec le gouvernement de transition après son retour au Tchad en vue d'une solution globale pacifique, à respecter les lois et libertés fondamentales et à œuvrer pour l'unité nationale, pour un climat politique apaisé, en évitant toute forme d'action violente.
Le chef de mission Abdraman Koulamala donne également quelques engagements du gouvernement de transition.
Le gouvernement de transition s'engage à faciliter le retour du président du parti Les Transformateurs, Dr Succé Masra, en garantissant le libre exercice de ses activités politiques dans le respect de la loi en vigueur. S'engage à plaider en faveur de la suspension du mandat d'arrêt émis le 8 juin 2023 auprès des autorités judiciaires contre le docteur Succé Masra et ses partisans en vue d'une amnistie générale au bénéfice de toutes les parties impliquées.
Le retour de l'opposant docteur Succé Masra à travers cet accord de principe est très bien apprécié par quelques citoyens interrogés dans la rue de N'Djamena.
Nous sommes dans une période de transition qui nécessite ici la réconciliation entre les filles et fils du Tchad. Mais ce que j'aimerais dire, que cette réconciliation ne soit pas faite dans l'hypocrisie.
Le président Succé Masra, c'est son pays. Et s'il accepte de revenir malgré ce qui l'a poussé à quitter le pays et qu'il retrouve lui-même le courage de signer cet accord, c'est une bonne chose.
C'est un citoyen comme tout d'autre. Et ça donne quand même l'envie de croire que les autorités tchadiennes sont plus ou moins engagées à ramener tout le monde.
Cet accord est partiel et donc parcellaire qui ne peut pas résoudre le problème de crise politique au Tchad, estime le politologue Dr Évariste Garlem-Toldi. Il plaide pour une conférence politique avec les acteurs, notamment le leader de Wakitama en exil, pour une solution globale. Il reconnaît toutefois que c'est un premier pas et l'opposant Dr Succé Masra en sort gagnant.
Le président des transformateurs a gagné sur tous les plans parce qu'il voulait rentrer le 18 octobre sans accord, sans garantie. On l'a empêché de venir. Et il revient maintenant avec un accord, donc certainement avec beaucoup plus de garanties. Or avant, il s'est hasardé à venir avec la queue entre les jambes, sans accord le 18 octobre passé. Donc j'ai comme l'impression que le gouvernement déroule souvent le tapis rouge au président des transformateurs. À chaque fois que lui pose un acte, le gouvernement qui pense le contrecarrer lui offre plutôt un boulevard pour avancer.
À sa descente d'avion ce vendredi à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena, où il a été accueilli par le ministre de la Réconciliation nationale, le président du parti Les Transformateurs, Dr Succé Masra, a déclaré, et je cite, « Merci à vous, peuple vaillant, gloire à Dieu qui nous a donné ce grand pays à transformer dans la justice, l'égalité et la diversité. » Fin de citation. André Kodoma Djingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM. Au Cameroun, le 29 octobre dernier, Joshua Ossi, 54 ans, a été élu président du SDF, Social Democratic Front. Jusqu'alors, premier vice-président du parti, il succède à l'opposant John Frundi, décédé le 12 juin après avoir présidé le SDF depuis sa création en 1990. Pour analyser les enjeux de cette élection et scruter l'avenir de ce parti, Mouhamadou Oumfa a joint Kennedy Edjacha, militant et ancien cadre de ce parti vivant ici aux États-Unis.
Ni John Frundi avait annoncé longtemps en avance sa décision de prendre sa retraite politique à la fin de son dernier mandat. Il avait bien voulu baliser le terrain pour la course à sa succession en permettant que les potentiels postulants à sa succession puissent avoir le temps de fêter leurs armes.
Joshua aussi avait en face de lui deux candidats qui n'étaient pas vraiment connus. Est-ce que cette élection était vraiment crédible?
Franchement, l'introduction du bulletin de vote unique est quelque chose d'extraordinaire pour la démocratie au Cameroun. En implémentant ce processus en interne, le SDF, de ce fait, une fois de plus, confirme son rôle de parti politique avant-gardiste dans le combat pour un système électoral crédible au Cameroun. Et n'oublions pas aussi que le SDF fut le premier parti politique à instaurer l'utilisation des urnes transparentes au Cameroun en avril 1999 lors de son 5e congrès ordinaire.
Mais il se trouve quand même que le SDF a perdu 27 cadres. De quelle légitimité peut se prévaloir Joshua aussi?
Pour le moment, Joshua aussi semble avoir la légalité de son côté, mais il reste que la visibilité de sa légitimité soit obscurée par toutes ces manigances qui ont précédé son couronnement à la tête de notre parti, le SDF.
Le SDF a-t-il encore vraiment une chance d'arriver au pouvoir avec Joshua Si, un président national qui a obtenu 3% lors de l'élection présidentielle de 2018?
Les chances du SDF pour accéder au pouvoir restent intactes. Regardez la situation socio-économique du Cameroun. Elle est pire aujourd'hui qu'en 1992, quand notre candidat avait gagné Paul Biya, qui est resté accroché au pouvoir. Au demeurant, le SDF ne devrait plus faire le genre d'erreur qu'il a fait en 2018 dans le choix de son port étendard à l'élection présidentielle.
Le SDF a aussi perdu de sa superbe du fait de la crise dite anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest qui sont ses fiefs.
Le SDF ne perd pas seul. C'est toute la nation camerounaise qui est perdante. Au-delà des considérations électoralistes, je dirais la seule victoire que recherche le SDF en ce moment, c'est le retour de la paix dans ces deux régions de notre pays, le Cameroun.
Le SDF, pendant longtemps, a refusé d'entrer au gouvernement, d'être membre de la majorité. Est-ce que vous pensez qu'avec l'élection de Joshua aussi, on fait un pas vers une alliance avec le pouvoir?
Alliance avec le RDPC, franchement, je dirais jamais. Ceux qui s'y aventuraient recevront la pleine dose des conséquences de leur action. La seule alliance qui mérite d'être tissée et maintenue est cette alliance traditionnelle qui existe entre le SDF et le peuple camerounais. Voilà pourquoi nous sommes le parti du power to the people, donc, c'est-à-dire pouvoir au peuple.
Joshua aussi a désormais les pleines commandes du SDF. Comment peut-il réussir à remotiver ses troupes et à être un meilleur leader que celui qu'on a vu en 2018?
Il devait être quelqu'un qui est à l'écoute de ses militants, de ses cadres, et il devait être aussi un mendiant de la réconciliation. Parce qu'il y a eu des cadres qui ont été exclus, donc il faut voir comment est-ce que nous pouvons ramener tout le monde sous une tente et que nous ayons une sorte de truc en réconciliation, donc vérité, réconciliation.
C'était Kennedy Edjacha, militant et ancien cadre du parti SDF vivant ici aux États-Unis.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, la situation humanitaire se dégrade suite à la suspension des activités du programme alimentaire mondial dans les camps de déplacés en raison de l'insécurité. Les sites enregistrent sans cesse de nouveaux déplacés qui ne sont pas pris en charge, une situation qui inquiète les responsables des déplacés qui craignent une augmentation du nombre de décès dus à la famine. Notre correspondant Zanem Neti Zaidi a visité les différents sites de déplacés et nous propose ce reportage.
Ces deux hommes construisent une petite cabane pour abriter leur famille après avoir passé environ 2 jours à la Belle Étoile. Ils ont récemment fui la zone de Kibumba dans les territoires de Nyiragongo où des tirs nourris sont signalés depuis quelques jours entre le rebelle du M23 et l'armée congolaise. Ils déplorent la vie difficile qu'ils mènent depuis leur arrivée.
Atuna Maji.
Nous n'avons ni eau, ni nourriture, ni médicaments depuis notre arrivée. Nous ne savons pas quoi faire. Même cette cabane que je suis en train de construire ne sera pas confortable. Nous utilisons des bâches que nous avons ramassées.
Beaucoup de nouveaux déplacés comme Safari n'ont pas ces semblants de privilèges de trouver des bâches, même délabrées, pour couvrir leur hutte. Certains passent la nuit dehors et ceux qui ont de la chance se retrouvent dans des maisons inachevées autour du camp, soumis aux intempéries.
Nous n'avons même pas des bâches pour faire des huttes. Nous dormons sans nourriture et la nuit nous sommes attaqués par la pluie. Nous dormons dans cette maison inachevée. C'est comme si nous dormions dehors.
La mauvaise situation humanitaire s'est aggravée depuis la suspension de l'intervention humanitaire dans les camps des déplacés du territoire de Nyiragongo par le Programme alimentaire mondial depuis le mercredi 25 octobre en raison de la sécurité accrue dans la région. Gilbert, l'un des responsables des personnes déplacées, révèle qu'ils ont enregistré au moins 1250 nouveaux ménages venus de Kibumba, Rugari et Tongo qui font face à une situation humanitaire très critique et ils craignent des décès dans les jours à venir en raison du manque d'assistance.
Vous savez que le Programme alimentaire mondial PAM jouait un rôle très important dans l'assistance aux déplacés, mais aujourd'hui il n'est plus présent, donc je crains que nous n'enterrions bientôt beaucoup de gens à cause de la faim, car il n'y a pas d'assistance.
Le Nord Kivu compte actuellement environ 2 400 000 déplacés. Au-delà de la question sécuritaire, le Programme alimentaire mondial a évoqué le manque des fonds pour mener à bien ses activités. Jusqu'à présent, rien n'a filtré sur la date probable de reprise de ses activités. Zanem Letizaidi pour VOA Afrique, Goma.
VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Washington fait état d'un important recul démocratique dans le Sahel, avec notamment les coups d'État au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et récemment au Niger. Un haut responsable du département d'État a exposé devant le Congrès les causes de l'instabilité dans cette région africaine, ainsi que l'approche de l'administration Biden en vue d'y restaurer la démocratie. Les détails avec Eric Manilakiza.
Il existe plusieurs facteurs d'instabilité politique au Sahel, a déclaré la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Molifi, lors d'un récent témoignage devant le Congrès.
Le problème principal est la faiblesse de la gouvernance. Tous les pays où un coup d'État a eu lieu avaient auparavant connu des prises de pouvoir militaires. Nombre de ces gouvernements s'étaient livrés à des pratiques de corruption, n'avaient pas fourni les services de base et avaient ignoré les valeurs démocratiques en prolongeant la durée des mandats ou en bafouant les droits de l'homme. Ces pratiques ont mis à l'épreuve la présomption que la démocratie fonctionne.
Les atrocités commises par l'État islamique et la branche d'Al-Qaïda connue sous le nom de Génime, ainsi que les prédations des groupes armés criminels, ont exercé une pression implacable sur les gouvernements et les civils. Les dirigeants militaires invoquent l'échec supposé de la démocratie pour justifier leurs actions. Mais le régime militaire n'améliore pas la vie des gens, a souligné le secrétaire adjoint Phi.
En fait, les régimes militaires appauvrissent les populations et les rendent moins sûres. Le nombre de décès dus à la violence politique a augmenté de 150% au Mali et de 77% au Burkina Faso en 2022. Les violences ciblant les civils au Mali ont augmenté de 38% cette année. Près d'un tiers de ces incidents ont été perpétrés par les forces de sécurité maliennes ou le groupe Wagner. Les incidents violents au Niger ont augmenté de 42% au cours du mois qui a suivi le coup d'État.
Les États-Unis s'efforcent de favoriser le retour à la démocratie dans la région, a déclaré le secrétaire adjoint Phi.
Dans le cas du Niger, nous travaillons en étroite collaboration avec la CEDEAO. L'Union africaine et les commissions économiques régionales d'Afrique sont des partenaires essentiels pour faire progresser la paix et la démocratie. Le secrétaire d'État Blinken a rencontré les ministres des Affaires étrangères de la CEDEAO lors de la récente Assemblée générale des Nations unies afin de proposer une approche progressive de la reprise de l'aide américaine basée sur des actions concrètes visant à rétablir un régime démocratique dans le pays. Engagés auprès du peuple nigérien, les États-Unis ont maintenu l'aide humanitaire et l'assistance sanitaire et alimentaire de base.
Le Sahel fait partie intégrante de nos relations avec le continent africain, a déclaré le secrétaire adjoint FI, assurant que les États-Unis continueront à soutenir le retour à la démocratie dans toute la région.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Monezero, à la mise en onde, Joselle Morissin. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une bonne soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.